notre maison.
Nous utilisons tous la même eau.
Mais trop de communautés ont des contaminants dans l'eau qui pourraient affecter notre santé.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos familles soient en sécurité dans la maison?
Ça semble difficile.
Mais il existe des trucs simples.
N'utilisez que l'eau froide du robinet, pas tiède ni chaude, pour boire, pour cuisiner et pour les préparations pour nourrissons.
Et suivez les avis locaux sur l'eau potable.
Pour de plus amples renseignements sur la protection de votre santé à la maison, obtenez le guide en ligne à canadiensensante.gc.ca/santé à la maison ou à votre centre de santé. Un message d'intérêt public du gouvernement du Canada et de cette station.
La lutte TOW sous le soleil au Beach Club de Pointe-Calumet. Samedi le 14 juillet, on suit le chess, on sort les speedos et on assiste à un événement de lutte avec entre autres le légendaire Coco Beware et les meilleurs lutteurs du Québec. Le 14 juillet, le Beach Club de Pointe-Calumet se transforme en amphithéâtre plein air avec en primeur le premier concours Miss TOW. Surveillez les annonces à venir sur TOW Radio Show et sur la lutte Impact, diffusée sur RDS.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Les bars érotiques Le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au Centre Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3000 rue Viau à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la production Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 et au 1570.ca.
Hello, this is Earl Hebner. You damn right I did. I'm the best there is, the best I was, and the best there ever be. And you listen to the TOW radio show.
Je sais que tu l'aimes pas, Pat, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est pas le Pat Labrad Show, c'est le TOW Radio Show. Avant de passer à notre prochain sujet, j'allais l'oublier, mais faut pas que je l'oublie. Ce dimanche, WrestleMania, ça débute à 19h pour ceux et celles qui veulent acheter l'événement. Ou si c'est ça vous intéresse pas d'écouter ça tout seul à 4, nous vous invitons au Boston Pizza de Ville-Lasalle. La gang du TOW Radio Show sera présent, c'est-à-dire moi-même, Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade, notre historien, également Bertrand Hébert, à qui qu'on va parler dans un instant. Mais bon, faut être présent à partir de 18h. Ça se passe au Boston Pizza de la salle.
En face du carrefour.
En face, merci Patrice.
Ouais, j'avais pas ouvert le bon micro, là. Qu'est-ce qui se passe?
En face du carrefour Angrignon, en fait. Donc, très facile à s'y rendre, là.
Le métro Angrignon.
Métro Angrignon, ligne verte, la dernière station. Donc, ça va être la place à être dimanche. Effectivement, pour WrestleMania. Patrice, sur notre page Facebook, bon, écoutez, oui, je sais que mon gag de rediffusion, c'était pas ma meilleure. Merci
non,
pour ceux
meilleure.
Qui me l'ont fait remarquer. Il y a aussi, quand je disais tantôt, on parlait des Four Horsemen. Lex Luger a aussi été un Four Horsemen entre Barry Windham et Ole Anderson. Il y a Tommy Armstrong aussi qui nous dit que, bon, contrairement à, peut-être à toi un peu, Pat, il est très excité par la carte de WrestleMania. Donc, il y a bien hâte. Il y a 3 gros matchs pour lui, plus Sheamus et Daniel Bryan. Et finalement, Jonathan Pelcha, qui nous demande pourquoi, bon, que ben en fait, qui nous demande ou qui émet le commentaire que Randy Macho Man Savage n'est pas au Hall of Fame, il trouve ça triste et frustrant.
Alors, je te pose la question, Pourquoi Patrick Randy de Macho Man Savage n'est pas encore intronisé au temple de la renommée?
Écoute, la réponse qui semble, qui a jamais été confirmée par la WWE, mais qui semble être l'histoire la plus plausible, c'est qu'au moment où Randy Savage a quitté la WWF en 1994, à l'automne 94, ce qui serait arrivé, c'est que Savage aurait eu une relation sexuelle avec une très très jeune Stephanie McMahon, et ça c'est pas des ragots là, ça a été parlé par des anciens scripteurs de la WWE qui ont quitté la compagnie depuis ce temps, qui ont fait des entrevues, et ça a été confirmé par bien des gens autour, mais évidemment Vince ou Stephanie confirmeront jamais cette histoire là pour les raisons bien évidentes, mais c'est l'histoire qui est la plus plausible, la plus connue par rapport au fallout qu'il y a eu entre Savage et McMahon, et c'est peut-être pour ça que on n'est pas à la veille. C'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps, Savage a été vraiment dans le dugout de la WWE. Je pense qu'ils ont fait un DVD sur lui parce que les gens le demandaient, puis qu'il y avait un 5 de piastres en bout de ligne pour la WWE aussi. Mais je pense que c'est une des raisons, sinon la raison principale, et qu'on n'est peut-être pas à la veille de voir Savage au temple.
Il me semble que c'est pas la première fois que j'entends parler des histoires à Stephanie McMahon. Tu te rappelles lorsque Jerry Lawler avait quitté avec sa blonde
de quatre
avait écrit des histoires comme quoi que Stephanie McMahon couchait dans le même lit que Tom Pritchard.
Ah, ça, tu vois, ça, tu m'apprends cette...
Mais c'est peut-être bien juste des cancans, mais bon...
Mais Savage, c'est plus que des cancans parce que ça a été raconté par...
Elle devait être jeune en 94.
Elle a mon âge, je me trompe pas, Stéphanie, donc elle avait peut-être un...
15-16 ans.
Dans ce coin-là, là, peut-être un 17.
Est-ce que c'est pour ça que Creed ont fait la première version de Legs Wide Open et puis l'ont changé à Arms Wide Open?
Là, tu sors de mon domaine.
Ouais, mais c'est ça, qu'on se faisait des blagues plates. Fait que moi aussi, j'avais droit à ma blague plate. Qu'est-ce que tu penses de ça, Bertrand? Toi, la raison?
Ah, ben, c'est la rumeur qui est le plus véhiculée, puis qui est venue de plus de sources différentes, qu'il s'est passé quelque chose, en combiné avec le fait, la façon, puis au moment que Randy est parti pour la WCW de façon plus que cavalière envers Vince, là, Vince a été blessé personnellement aussi dans cette affaire-là, parce que Randy a vraiment quitté de façon sans annoncer son départ, là. Il l'a su, c'était fait, là. Vince, il a jamais eu la chance de lui parler. Il y a beaucoup de mauvais sang, mettons, entre la WWE puis le Randy Savage, au point où ce qu'on s'attendait personne à ce qu'il soit jamais élu au temple de la renommée. Le fait qu'il soit mort évite le concept de dire qu'ils sont obligés de le rencontrer pour l'avoir au temple de la renommée. Par contre, Lanny Poffo a rajouté un autre degré de séparation en disant qu'il accepterait d'introniser son frère au
si toute la famille le serait, hein?
Si toute la famille le serait, le père, le frère et Randy. Puis on s'entend que Lanny Poffo, Randy Savage, c'est pas tout à fait la même catégorie de superstar.
Même Angelo Poffo non plus, le paternel. Stéphanie a eu 18 ans en septembre 94, donc... Écoute, elle avait peut-être 17 à ce moment-là, effectivement.
Ouais, écoute, il nous en aura fait vivre, hein, des sensations, Macho Man. Même, il sortait avec la fille Gorgeous George.
Ouais.
Elle nous a fait une cassette porno, justement, qui était dédiée à Macho Man. Mais bon, ça, c'est hors contexte. On en reparlera à un moment donné.
On s'éloigne du sujet, là.
Bertrand, la 25e anniversaire de WrestleMania, ça se passe à Houston en 2009.
Oui, puis en rétrospective, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont marqué ce WrestleMania, si on regarde ça là, de façon objective. Les combats de championnat sont plus que...
absents?
Ben c'est ça, moi je les considère même pas dans les combats les plus importants à WrestleMania-là. Triple H contre Randy Orton, John Cena contre Edge puis Big Show, on s'entend que c'est pas du réchauffé, mais pas loin, là.
C'est vrai, parce que tu l'as même pas mentionné sur ma feuille, et tout ce que tu m'as écrit, c'est le Money in the Bank Ladder Match.
Le Money in the Bank, c'est le Money in the Bank de CM Punk. Donc c'est un début pour Punk là, vers une ascension à un niveau là supérieur des cartes de la WWE. L'autre combat que je trouve intéressant, là, c'est le combat là, avec les légendes puis Chris Jericho, là, particulièrement pour le retour de Ricky Steamboat, qu'on croyait la carrière terminée.
Et puis qui a fait la barbe à ben des jeunes, hein? On n'aurait jamais cru qu'il était en forme encore comme ça.
Ricky Steamboat, s'il avait 20 ans, c'est quand même, il y a pas un gars qui l'accote, là. C'est pas compliqué, là. Ricky Steamboat est un des plus beaux workers de toute l'histoire de la lutte, point final, terminé, là. Et on l'a vu, là, il a fait quelques matchs autour de WrestleMania en suivant le WrestleMania avec Chris Jericho. Puis je veux dire, il pouvait encore en montrer, puis il était mais supérieur à ben des gars sur le roster. Là. C'était de toute beauté à voir. Puis bon, là, on, dans ce combat-là, on profitait de l'épisode Mickey Rourke et du film The Wrestler. Donc le plan original, c'était supposé d'être justement Mickey Rourke contre Chris Jericho, un combat qui avait commencé à être construit jusqu'à temps que Mickey Rourke, en anglais on dit got cold feet, là. On s'est mis à paniquer sur la carrière de Rourke qui est en train de reprendre le dessus comme suite à la performance dans The Wrestler puis les critiques du film The Wrestler. Et là, l'idée de participer comme lutteur à WrestleMania, c'est venu. En plus, là, il est venu toute une histoire. Là, Jericho a fait une monture, pour reprendre une expression chère à certains lutteurs québécois, monture qui était vraiment là, je veux dire, à Larry King puis tout ça. Là, puis je veux dire, là, il piquait juste aux bons endroits. Puis si tu veux venir dans mon ring pour le vrai, je vais te montrer c'est quoi, là. Au point que même à WrestleMania, pour son apparition, Mickey Rourke a Frank Shamrock avec lui au ringside parce que il trust personne.
pas juste ça, Bertrand, aussi, je pense que l'entourage de Mickey Rourke ne lui avait pas conseillé d'annoncer qu'il serait à WrestleMania, justement parce qu'il était en quête d'un Oscar, il était en nomination, et je pense que on voyait ça d'un mauvais œil du côté de l'entourage de Mickey Rourke.
L'annonce officielle est arrivée après les Oscars, même s'il y avait eu des indices auparavant. Donc, il y a eu un petit peu de cafouillage de ce côté-là, mais bon, je veux dire, ça semblait logique avec le succès du film The Wrestler à l'époque que la star comme Mickey Rourke soit invité à WrestleMania. Il est devenu ami avec Ric Flair au travers de tout ça, il est de Roddy Piper, donc tout ça a pris des allures quand même là, qui fitaient avec les histoires puis avec les possibilités pour WrestleMania. Et moi, s'il y a une chose qui a ressorti de ça, je veux dire, ça nous a permis de revoir Ricky Steamboat une dernière fois en action, puis je pense que juste pour ça, ça valait le coup, là.
Pour sûr.
On a vécu la carrière de Steamboat terminée à jamais, là.
Une petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ricky Steamboat par la suite? Il a fait un ACV et il est tombé paralysé ou quoi? Je sais qu'il est tombé malade.
À la FCW, hein, je pense.
Ouais, c'est ça. Ben, suite à la langue qu'ils ont faite avec le Nexus, il a fait, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il a fait, là, mais ça l'a.
Il a reçu un coup de pied en pleine tête, hein.
À l'idée de prendre des bombes pour le vrai et autrement que d'être un professeur avec FCW, là. C'est dommage. C'est pour ça que c'est intéressant là-dessus, parce que ça va vraiment être les dernières fois qu'on va avoir pu voir Ricky Steamboat contre un gars comme Jericho, qui était le candidat parfait pour lutter contre. En plus, il y a toute une histoire là-dessus. C'est Chris Jericho, il y a une photo de lui tout jeune à Winnipeg qui se fait signer un autographe, prendre en photo avec Ricky Steamboat puis le championnat intercontinental.
Qu'on peut voir sur le DVD de Chris Jericho, d'ailleurs.
Lui, de son match préféré, c'était Steamboat Savage à WrestleMania, rencontre Ricky Steamboat à WrestleMania. Il y a toute une histoire là-dedans, là, dont pour les fans de lutte.
Quand on est né sur la bonne étoile, hein, on s'appelle Chris Jericho.
Si je peux me permettre de faire une parenthèse aussi, puis Bertrand, je sais que tu connais très bien cette période-là également. Pour ceux qui ont uniquement vu Rick Steamboat à la WWF et entre autres sa rivalité avec Macho Man, je vous invite à trouver sur YouTube ou sur le DVD de Ricky Steamboat aussi, sa rivalité avec Ric Flair dans le temps de la NWA et avec Rick Rude aussi dans le temps de la NWA. Écoute, Steamboat était un travaillant hors pair, et je pense que c'est encore plus complet de le voir contre ces lutteurs-là que contre Savage.
Ouais, définitivement. Même les combats en équipe avec Jay Youngblood, ça remonte encore plus loin. C'est, je veux dire, il est fascinant à regarder là, la fluidité de ses mouvements dans l'arène.
Plusieurs encore aujourd'hui font des arm drag à la Rick Steamboat parce qu'il y avait une façon très particulière de les faire.
Non. Bertrand, on parle des frères Hardy dans un combat extrême.
Il y a un match des frères Hardy, un contre l'autre, qui a eu un petit de vapeur, et probablement encore là une des dernières fois que ces deux gars-là vont s'être rencontrés sur une scène aussi majeure que ça. c'est Matt Hardy et Jeff Hardy. Et si on veut, là, c'est un peu avant la descente aux enfers des deux gars. Parce qu'après ça, Jeff Hardy va quitter, Matt Hardy va quitter, puis on connaît tous les problèmes que les deux hommes ont connus depuis qu'ils ont quitté la WWE avec des problèmes de substance et leur performance, disons-le, décevante dans la plupart des cas avec la TNA. Donc, c'est comme un petit peu le sommet de leur montagne, du moins jusqu'à nouvelle, ou à preuve du contraire.
Ensuite de ça, on a Undertaker qui bat Shawn Michaels dans le premier de deux matchs.
Ouais, ben c'est ça, Undertaker et Shawn Michaels dans le premier de deux matchs. Écoutez, ils volent le show littéralement, là, si on y pense, là, je veux dire, si on pense à WrestleMania 25, là, je veux dire, on y pense plus au combat de championnat, là. Le combat de WrestleMania 25, c'est Shawn Michaels et l'Undertaker. Vole le show comme Ricky Steamboat et Randy Savage ont volé le show. Même sur un certain point, dépasse ça, parce que non seulement ils ont volé le show, mais en bout de ligne, c'est le draw de WrestleMania 25 aussi, là. C'est comme si on avait eu Andre the Giant, Hulk Hogan, puis Savage Steamboat dans le même match. Malheureusement, il n'y a plus personne dans la nouvelle génération de lutteurs ou formé directement par le système de développement de WWE qui peut performer à ce niveau-là. Là, je veux dire.
S'il les laisse aller à un moment donné, Pat Patterson nous avait parlé de Dolph Ziggler.
Ouais, peut-être un Dolph Ziggler, mais ça, pour danser, il faut être deux. Hein?
C'est vrai.
T'sais, fait que Dolph Ziggler tout seul peut aller jusqu'à un certain point. Ça y prend un partner pour danser. Est-ce que Albert, en venant du Japon avec une expérience autre que celle de la WWE, peut être un gars qui peut performer? Je suis pas sûr que c'est un performeur au niveau d'un Shawn Michaels. Est-ce qu'on verra des combats de genre un CM Punk pourrait être quelqu'un qui peut performer à ce niveau-là, mais encore là, ça y prend quelqu'un pour danser avec lui. On a vu un peu là, quand il était avec Ziggler, justement. Est-ce que Ziggler et Punk seront on top d'un WrestleMania dans les années à venir pour nous donner une performance comme ça? On ne sait pas. Mais c'est peut-être effectivement deux des candidats. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas Ziggler puis Punk aujourd'hui, c'est Otunga et...
C'est vrai! C'est vide!
Qui... Dans 10 ans là, ou dans 5 ans, là, qui va se lever debout?
Tantôt, Bertrand, Pat, il faisait la remontrance comme quoi que j'étais sans saveur concernant le WrestleMania de ce dimanche. Puis c'est exactement ça. Il n'y a pas de suite, c'est vide.
Mm-hmm. Donc, mais c'est parce que si on compare les constructions de 25, de 26, de 27 qu'on va voir, de 28 de cette année, puis on compare avec WrestleMania 4 ou WrestleMania 6 ou WrestleMania 9, où on a, en tout cas, moi, j'ai un souvenir beaucoup plus important, tu sais, l'anticipation de la construction vers l'événement, là, je veux dire, moi, WrestleMania Sunday, là, ça commençait à 9h le matin en me levant, puis ça finissait quand le pay-per-view était fini, puis encore, tu sais, c'est comme, t'as toute la journée, tout le monde à la maison, go party, la bouffe, puis là, c'était la soirée, les prédictions, puis...
C'est notre Super Bowl à nous, les fanatiques.
Ça passait la journée au complet, là, je veux dire, et les trois dernières années, j'ai pas vu WrestleMania en direct, là.
Sauf ce dimanche, tu vas peut-être avec nous, hein.
Ce dimanche, c'est ça, ça fait 3 ans là, que j'aurais pas vu. Ça va être la première WrestleMania que je vois en direct. Là.
En bouclant la boucle de WrestleMania 25, on a le retour de Sonny dans la bataille royale des divas, dont notre Québécoise Maryse.
La seule Québécoise à l'affiche, c'est Maryse qui fait une apparition dans la fameuse bataille des divas. Qui défie l'imagination, quant à moi, là. Les filles ont aucune présentation. Sonny qui fait un retour, puis qu'on la voit pas.
C'est vrai, on la voit à peine, hein?
C'est épouvantable, se donner la peine d'avoir 25 divas pour le 25e, puis de pas les présenter, puis de les faire éliminer d'un bout de l'autre, puis tu sais pas qui est là, qui est plus là, qui est rentré, as-tu été là, a pas été là. C'est épouvantable. Là. Une perte de temps, là, épouvantable. Là. C'est plate pour certaines de ces filles-là, comme Sonny, par exemple, quand même, qui représente quelque chose pour la business. C'est comme la plupart des matchs et divas d'aujourd'hui, là. On dirait que c'est fait parce qu'ils sont obligés, là.
Oh, c'était affreux hier, le match des divas. Puis, tu sais, ben, pour avoir fait partie de Femme Fatale 8, je voyais les filles se tirer les cheveux pis en train de crier. Je dis souvent la bague, ouais, une bagarre de filles, ça ressemble à ça, mais ça vient justement brimer l'effort des filles.
Le combat de lundi, là, Yves contre Kelly, c'est le combat que il était en équipe il y a pas si longtemps, ces deux filles-là. C'était
vendredi dernier.
Puis ils ont changé ça tellement vite que finalement le combat qui semblait construire au moment où Eve trahirait Kelly Kelly. C'est devenu juste un match de même placé à Raw le lundi. Fait que c'est ça. C'est vraiment là. On dirait qu'ils sont obligés. Là. Puis c'est vraiment traité comme s'ils étaient obligés là, parce qu'ils ont décidé qu'il y avait des matchs de filles, mais il n'y a aucune pensée mise en arrière de ces matchs-là. C'est garoché. Puis je veux dire, l'année passée, à la limite, Snooki, elle avait au moins l'intérêt d'être hot médiatiquement parlant puis d'être sur un show qui était hot. Je veux dire, la fille de Extra, on s'entend qu'elle aime la lutte. Elle a déjà bien performé comme animatrice de Raw, mais c'est comme... elle sert absolument à rien.
Là. Exactement, mais retiens-toi pour... parce qu'on te garde tantôt, Bertrand, on te laisse pas partir, on va parler de WrestleMania tantôt.
On va continuer dans notre 25.
C'est ça, là, tu t'emportes. Mais là, c'est ça, 25, là, on en a parlé déjà, là, ça a fait le tour. Juste rapidement, tu me dis que The Wrestler, c'est le deuxième à porter ce nom-là.
Ce qui était intéressant du film The Wrestler, c'est que c'est le deuxième film à s'appeler The Wrestler. Il y a un film en 1974 mettant en vedette Ed Asner, produit par Vern Gagné, mm-hmm. qui est l'autre vedette du film, qui s'appelle The Wrestler. J'ai mis quelques clips sur la page. C'est un film assez tough à regarder aujourd'hui. Ed Asner est bon là-dedans. Les lutteurs, ça dépend des scènes qu'on lui donne. Mais ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est que t'as Vince McMahon Sr. dans ce film-là, qui joue son propre rôle. Et dans une réunion de promoteurs de lutte. Et c'est probablement une des seules fois là, où on peut voir Vince McMahon Sr. sur film.
En train de bouger,
là, puis vraiment là, être en train de parler puis d'interagir avec d'autres gens, là, parce que généralement, il était pas du tout à la télévision à l'époque qui était le promoteur. Fait que ça, c'est intéressant comme segment. Ça se trouve sur Amazon à 5$ ou quelque chose comme ça, ce film-là, en DVD, pour les gens qui s'intéressent, là, mais je trouvais ça intéressant comme... petite anecdote à propos du film de Wrestler.
Bertrand, on parle de film de lutte. Ouais. Le film No Holds Barred, qui avait Zeus avec Hulk Hogan, il parlait d'un promoteur de télévision méchant. Est-ce qu'on pointait Vince McMahon? Mais c'était Vince McMahon qui avait produit ce film-là.
Moi, ce que j'avais entendu, Vince a produit le film. Le promoteur qui essaye d'acheter des lutteurs, déjà à l'époque, c'était Ted Turner qu'on disait avec ce... personnage-là.
Parce qu'il y a un poste de télévision et puis,
Le film, Patrice, qui d'ailleurs avait Zeus avait lutté
à SummerSlam
suite à ce film-là.
Si vous voulez une anecdote pour No Holds Barred, le premier soir que No Holds Barred est sorti, moi j'étais allé voir No Holds Barred. Hulk Hogan luttait au Forum le même soir. Pour No Holds Barred à Montréal, dans la salle que j'ai été voir à l'Égyptien, il y avait 14 personnes assises dans la foule le premier soir de No Holds Barred. Donc, les films de WWE, c'est pas d'hier que
ça n'a jamais pas dit.
Et il y avait Joe Leduc, d'ailleurs, qui fait une.
Joe Leduc,
qui fait partie du film No Holds Barred.
Je le regarderai, il doit sûrement être disponible quelque part.
Ah,
donc,
tu peux avoir les deux pour 10$ avec le film The Wrestler de 74.
C'est tellement mauvais que c'est bon.
C'est ça, quoi, je veux le voir. Je me rappelle de la scène où le frère de Hulk se fait blesser et qui pleure, en tout cas.
Le frère qui s'appelait Randy.
C'est vrai, hein, c'est vrai. Bertrand, on s'en va à WrestleMania 26.
Ouais.
On s'en va dans le désert. Écoute, je veux faire la parenthèse tout de suite parce que tu me parles de Wayne Gretzky qui est le premier à nous mettre sur la piste de l'Arizona photo.
La première fois qu'on entend parler que WrestleMania s'en va en Arizona, il y a une photo de Wayne Gretzky qui sort avec un chandail annonçant WrestleMania pour l'Arizona. D'ailleurs, j'ai mis l'article suédois où Wayne apparaît avec le chandail... de WrestleMania. C'est la première fois. Là. Donc, on continue la fameuse, ce qu'on parlait, là, les villes font des pitchs, puis font des offres pour obtenir la présentation de WrestleMania dans leur ville. Et là, au niveau de Phoenix et de l'Arizona, il y avait tout un conglomérat d'équipes sportives puis des édifices qui étaient pour recevoir l'événement qui se sont mis là-dedans. Puis à ce moment-là, Gretzky était à Phoenix pour les Coyotes. Donc, c'est la première fois qu'on entend parler que ça risque de s'en aller là. C'est la photo de Wayne Gretzky avec le chandail de WrestleMania.
On parlait de No Holds Barred, le film, et là, c'est le combat entre Bret Hart et Vince McMahon, qui n'était pas le combat de l'année.
Non, mais je veux dire, c'est en anglais, « Hell freezes over ».
Les poules ont des dents.
Les poules ont des dents en français. Ce qu'on n'aurait jamais cru qui finirait par arriver... est arrivé. Bret Hart est revenu à la WWE. Malheureusement, encore une fois, puis on le voit encore cette année avec la construction de WrestleMania, on dirait, il y a soit on en met trop ou on en met pas assez. Puis dans le cas de Vince puis de Bret, on en a mis probablement beaucoup plus que nécessaire. Ils ont fait toute une histoire autour de la fausse blessure à la jambe. Vince, il veut le match, il veut plus le match, il veut le match. Il essaye de... Ça finissait plus, là. Alors que t'annonces le match, puis je veux dire, c'est Dave Meltzer qui avait dit, puis tu fais jouer Wrestling with Shadows, puis ça vient de régler la question, c'est ton match fini. Je veux dire, il y a pas raison de plus que ça, là. T'es pas obligé d'en mettre, puis d'inventer des histoires de fausses blessures à la jambe, puis là.
L'histoire était tellement simple par elle-même, Bertrand.
Hein?
L'histoire était tellement simple par elle-même.
Mm-hmm. Aussi simple que simple, je veux dire, tu peux pas avoir... C'est l'histoire la plus connue du monde de la lutte, à l'extérieur des fans de lutte, ou presque. Je veux dire, tout le monde a entendu parler de cette histoire-là. Et, je veux dire, le promoteur, le patron qui a couillonné son employé loyal envers lui... Je veux dire, puis là, il revient, puis là, t'as le combat, finalement, fait que, je veux dire...
Puis toute la famille à Bret qui est...
Ouais, ben, ça a été un peu catharsique pour toute la famille Hart qui est là, au ringside, qui va participer à l'angle, puis vont avoir chacun le droit de frapper Vince, ou presque. Mais Bret est limité. Bret ne peut plus faire tout ce qu'il a déjà fait avec son ACV. Donc c'est ça. C'était un match était un peu long. Plus le Vince d'il y a quelques années non plus. C'est ça. Malheureusement, le match ne vit pas aux attentes qu'on aurait eues envers le match.
Mais en fait, Bertrand, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'on était à peu près 14 du côté de Bret et Vince était tout seul de son côté. Je m'attendais tellement à un moment donné à ce que, justement, le retour de Shane McMahon, Stephanie, Triple H à la limite, tu sais, qu'il y ait des gens, justement, Bret était pas capable physiquement de faire beaucoup de choses, mais il était capable de relativement manger une volée là sécuritaire, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Puis si on voulait faire quelque chose impliquant d'autres personnes, il n'aurait pas fallu que ça soit si juste d'un côté que ça, là, je pense.
Non, effectivement, là. Puis par contre, Bret va dire que ça a été très satisfaisant pour lui parce que c'était important de pouvoir revenir. D'être encore là, d'être reconnu par la foule, d'être devant une aussi grande foule. Pour lui, là, ça a été un moment de guérison assez important.
Puis un beau chèque.
Oui, sûrement. Puis l'idée juste que le match a eu lieu, Bret contre Vince, après toutes ces années-là, puis la catastrophe que fut...
Mais parce que...
Vince à Survivor Series à Montréal... Au niveau de conclure l'histoire, c'est quand même intéressant, malgré que le match n'a pas livré.
Bertrand, ce master aurait dû avoir eu lieu en 2006, lorsque Bret a été intronisé au Temple de la Renommée.
Je dirais même, idéalement, ça aurait été parfait, mais à ce moment-là, je pense que physiquement, Bret n'était pas capable de faire ça.
Et Bret n'avait pas réglé toutes ces choses avec Shawn Michaels, je crois, à ce moment-là, et c'était très important pour lui de régler tout ça avant.
C'est long pour Bret Hart de guérir, puis de remettre tout ça en perspective. Il en parle dans son livre, il en parle dans certains documentaires. Nous, on va en parler dans notre livre. Qui va sortir en février 2013.
OK, on s'éloigne. Il faut clairer WrestleMania. Bon, là, on parle de Chris Jericho contre Edge. Est-ce que c'est un match qui passe à l'histoire? Rapidement?
Ouais.
Non? OK, parfait. Maintenant, les filles, les divas, Vicky, Michelle, la blonde Undertaker. Question comme ça, les gars. Est-ce que Michelle McCool a sa place à la WWE parce qu'elle est la conjointe de Undertaker ou bien parce qu'elle est une bonne performante? Pat.
Écoute, elle a rentré avant d'être la blonde de l'Undertaker. Je pense qu'elle s'est améliorée avec le temps.
OK, Bertrand.
Elle s'est améliorée avec le temps. Par contre, je pense qu'elle a eu des opportunités que d'autres qu'elle aurait peut-être pas eues à cause que, justement, elle était la femme de l'Undertaker.
Mais ça marche comme ça dans toutes les sphères dans la lutte.
Je sais. Donc, OK.
Elle a tapé des circuits avec les opportunités qu'elle a eues. Là.
Mm-hmm. C'est vrai, mais quand même, tu sais, elle est quand même débrouillarde, je veux dire, dans le ring.
Je mentionne parce que c'est l'apparition de Maryse, encore une fois, notre Québécoise qui fait le...
Encore une fois, un combat garoché avec plein de filles.
Ouais.
On dirait que c'est le seul dernier vrai combat de filles qu'on a eu droit, ça a été Trish Stratus contre Mickie James.
Je pense que oui, là.
Et espérons qu'avec le retour de Karma, on va pouvoir en avoir d'autres avec, entre autres, Beth Phoenix.
Ça a fini par revenir. Ouais. Ensuite de ça, John Cena contre Batista.
Ouais, ben, c'est le match. Les deux avaient commencé ensemble à Ohio Valley. C'est la nouvelle génération de stars de la WWE. Moi, personnellement, les deux me laissent de glace. Donc, c'est ça. C'est pas, encore une fois, je trouve pas qu'encore une fois, ce combat-là ne passe pas à l'histoire. C'est le combat qui passe à l'histoire sur WrestleMania-là, c'est Undertaker et Shawn Michaels qui viennent, encore une fois, voler le show. Et c'est le dernier tour de piste de Shawn Michaels, qui est quand même un moment historique au niveau de la lutte assez important, là, parce que dans les dernières années, Shawn Michaels aura établi deux carrières. Une première carrière jusqu'à WrestleMania 14, puis une carrière après son retour. Puis dans cette carrière-là, il a établi, hors de tout doute, qu'il était Monsieur WrestleMania, Monsieur Performance, de Showstopper. Il a vraiment prouvé et établi hors de tout doute durant cette période-là. Et il va encore le faire dans son match de sortie avec l'Undertaker. Je veux dire, quoi dire de plus de Shawn Michaels qui est probablement... avant qu'on revoie un performance ou un performeur de ce calibre-là, les temps risquent d'être longs parce que Dolph Ziggler, aussi bon soit-il, n'a pas l'expérience que Shawn Michaels avait quand il est arrivé avec la WWE, a pas les chances puis le temps de construire son personnage puis de prendre de l'expérience comme Shawn Michaels a eu avec les Rockers, de tranquillement gravir les échelons. Je veux dire, on a vu Dolph Ziggler avoir un combat de championnat contre CM Punk à Royal Rumble puis perdre contre Randy Orton le lendemain soir ou le deux semaines après. Il n'y a pas de momentum qui peut se construire de la même façon que la légende de Shawn Michaels puis les performances de Shawn Michaels se sont construites.
Les poules vont avoir des dents, Bertrand, avant qu'on revoie un performeur comme Shawn Michaels.
J'irai pour les dents, effectivement.
Bertrand, reste là, on s'arrête. Au retour, on fait WrestleMania 27.
C'est bon.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Les bars érotiques Le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au Centre Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3 Ben Rue Vio à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la production Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
CJLV 1570 AM est à la recherche de représentants pour le secteur Montréal, Rive-Sud, Laval et Basse-Laurentide. Si le poste de représentant commercial vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à info@1570amplus.laval.com ou par la poste au 2040 Autoroute Laval, Laval, Québec, H7S2M9.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW9, samedi le 5 mai prochain, au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les meilleurs lutteurs québécois, dont le champion TOW, Frankie the Mobster. Également, Sylvain Grenier, Drew Onyx, Kevin Steen, Darko, El Generico, Eric Mastrocola, Sexy Eddie, Sanson, Handsome GF et bien d'autres. TOW9, Centre Pierre Charbonneau, le 5 mai prochain. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Hi, this is Mr. Anderson. Anderson of Impact Wrestling, and you are listening to the TOW radio show.
If you smell what The Rock is cooking.
J'ai-tu ouvert le bon micro?
Je pense que oui.
Yeah! Qu'est-ce qui se passe, Pat, sur notre page? Est-ce que ça dort ou est-ce que les gens sont attentifs?
Non, je pense que les gens sont attentifs. On parle beaucoup de Rick Steamboat. On parle de quelqu'un qui a mis aussi des photos de Vince Senior et de Vince Junior. On parle justement des combats Rick Rogues, Rick Steamboat, Jake the Snake contre Rick Steamboat aussi, qui avait été une bonne rivalité. Alors, quelques sujets comme ça, quelques topics là, qui font parler nos auditeurs sur la page Facebook qu'on vous invite
sondage,
à consulter.
Notre sondage, qu'est-ce qui se passe avec
le sondage, c'est assez tranquille, je te dirais. Il n'y a pas de développement. C'est partagé encore entre The Rock et John Cena. Par contre, pour le sondage sur comment vous écoutez l'émission, je te dirais que pour l'instant, le web est à une bonne longueur d'avance, suivi du podcast, et il y a Phénomène qui nous écoute via le 1570 AM. Alors, on te salue, Michel.
Bertrand, on est dans le salon à Ted Turner, le Georgia Dome à Atlanta, l'année dernière, pour le retour de The Rock.
Le retour de The Rock qui est sûrement le qui était le gros point de vente puis le gros point important de WrestleMania l'an dernier, qui l'est encore cette année. Je veux dire, c'est une chance inouïe pour la lutte. Parce que je veux dire, faut se rendre. Moi, là, j'ai fait une présentation en classe pour mon gars, OK? Puis je parlais du Rock, il faisait de la lutte. Puis là, je veux dire, mon gars, il a 12 ans aujourd'hui, donc ça fait un an de ça. Donc il avait 10-11 ans. Plusieurs personnes dans sa classe, hein, le Rock a fait de la lutte.
Wow.
Tout le monde connaît le Rock, là, parce que c'est une vedette de cinéma très connue, puis dont les familles louent ses films la fin de semaine, La Fée des Dents,
parce que match. Bertrand,
mais peu de monde de l'âge de mon gars savent jusqu'à quel point le Rock a été une grosse vedette dans la lutte.
Parce que ça fait quand même 8 ans hein, que The Rock n'a pas fait d'apparition, ben dans le fond, depuis l'an passé, mais c'était depuis WrestleMania 20.
Oui, effectivement. Et pour là-dessus, je veux dire que quelqu'un de sa stature aujourd'hui à Hollywood revienne puis décide de le faire, puis c'est tout à son honneur, parce qu'il n'y a aucune raison financière de le faire, là. On s'entend, là, l'argent qu'il peut faire avec WrestleMania puis sa vente de marchandises comparé à l'argent qu'il fait pour des films,
c'est de la petite bière.
C'est de la petite bière, là. C'est littéralement de la petite bière, là.
The whole Milwaukee best.
On voit quand même là-dessus, là, critiquer autant qu'on peut vouloir là-dessus, le Rock est là parce qu'il veut être là, puis s'il est pas là, le Rock a eu 40 ans ou va avoir 40 ans. S'il le fait pas là, il va être trop tard.
En parlant de fête, j'ai oublié de le mentionner tantôt, c'était la fête à Sylvain Grenier hier, soit dit en passant.
C'est vrai.
C'était mentionné sur un site de nouvelles de lutte, sur raja.com. Bertrand, évidemment, The Rock est là, mais il y a quand même des combats assez intéressants, dont ton préféré, Lawler contre Cole.
En fait, j'adore Jerry Lawler. Mais est-ce que c'était vraiment la meilleure utilisation qu'on pouvait faire d'un match à WrestleMania? Et jusqu'à quel point toute la construction de Lawler et Cole, oui, allait chercher de l'attention, allait chercher des ratings, mais jusqu'à quel point c'était dommageable pour le reste du produit d'avoir un Michael Cole totalement hystérique et hors de contrôle au micro, alors que sa job, c'est supposé de nous vendre les lutteurs, de nous vendre les combats, de nous vendre les événements. On se pose des questions, je veux dire, puis jusqu'à ce jour, qui peut souffrir vraiment Michael Cole? C'est ça. Donc, j'adore Jerry Lawler, c'est super pour lui qu'il ait réussi à avoir un match à WrestleMania enfin. Est-ce que c'était la meilleure utilisation qu'on pouvait faire d'un match ou de ces gars-là pour WrestleMania? Oui, peut-être pour c'était payant comme combat en termes d'intérêt de la foule, mais ça a été au détriment de plein d'autres mondes dans la compagnie.
C'est ça, à quel prix? C'est vrai, t'as raison.
À quel prix?
Ensuite, on a eu quoi? Encore un No Holds Barred, Undertaker contre Triple H, mais on ignore le combat qu'il y a eu entre les deux à WrestleMania 17.
Ouais, on ignore le premier combat à WrestleMania 17 et on y va en faisant un peu la sourde oreille à l'idée qu'il y a déjà eu des combats entre les deux hommes. Encore une fois, là, on est c'est assez legit comme statement quand ils disent qu'ils sont les deux derniers d'une of a dying breed ou de les deux derniers de leur génération, justement, il y a personne en arrière d'eux autres qui sont vraiment dans cette stature-là, avec cette expérience-là, et qui vont être capables peut-être de faire, on en a parlé un peu tantôt, peut-être un Punk ou un Ziggler, mais c'est même à ça, Punk a quand même une expérience diversifiée pour aider à atteindre ces sommets-là, mais Ziggler est un produit unique du système de la WWE, ce qui permet pas nécessairement la même diversité dans les combats, là. Fait que c'est vraiment là, cette année, encore une fois, le combat revanche. C'est la fin d'une époque, là, veut pas, là, ça là-dessus, je pense qu'on faut le donner, c'est vraiment la fin d'une époque, là. Les gars qui sortent du système de la WWE sont à des années-lumière de ces gars-là, là.
T'as raison. Bertrand, on a également le dernier combat de Edge contre Alberto Del Rio. Mis à part la retraite de Edge, tout le monde a été surpris de la défaite d'Alberto Del Rio.
Alberto Del Rio est un drôle de cas, je veux dire. Je pense que il a été comme 6 mois de temps ou à peu près où ce que la prédiction disait toujours, là, ça va y être, ils vont mettre la ceinture sur Del Rio, là, ça va y être, ils vont mettre la ceinture.
C'était rendu un running gag, là.
C'en était rendu presque un gag. Del Rio a apparemment de ce qu'en termes de lutte, les gens appellent de la heat thermonucléaire backstage. Il se promène comme une vedette, il est arrogant un peu comme son personnage parce qu'il a confiance. Il rubs people the wrong way, en anglais, qu'ils disent, là. J'ai l'impression que politiquement, il s'est fait des.
Il a pas les bons ennemis.
Il y a ses partisans, mais il y a ses ennemis aussi, au niveau. Puis d'ailleurs, on s'attendait tous à ce qu'il nous l'annonce dans le combat de John Laurinaitis en étant sur l'équipe Laurinaitis. Et il n'a pas été annoncé. En principe, aurait dû être revenu de sa blessure à ce moment-là. C'est quelqu'un, c'est ça, qui a une personnalité assez solide et c'est pas toujours la meilleure personnalité à avoir backstage. Surtout quand t'as déjà été une vedette, comme lui a été une vedette au Mexique. Les gars, quand t'as pas été une vedette à WWE, t'es d'abord pas accepté. Même si t'as été une vedette ailleurs, si tu t'as l'attitude d'une vedette, ça te nuit énormément, là.
Tantôt, Bertrand, je faisais allusion à Ron Simmons quand il est arrivé. Il était avec son petit épée en plastique puis son casque de gladiateur quand il est arrivé à la WWE, justement.
Une autre époque.
C'était une époque où les anciens champions de la NWA, quand ils arrivaient à la WWF, étaient souvent utilisés dans des gimmicks. On se rappellera Dusty Rhodes avec les polka dots. On se rappellera, il y en a quelques-uns d'autres là, qui avaient
on
eu
cherchait
des...
le ridicule, là.
C'est ouais, ça. Absolument.
J'ai vu WrestleMania 13 hier après-midi, puis j'avais oublié un gars, Ahmed Johnson.
Ahmed Johnson, qui est un autre cas.
Un autre cas particulier. OK, on continue notre tour. On parle du combat No Disqualification Count Out. Est-ce que c'était vraiment nécessaire entre Miz et John Cena? Est-ce que la lutte était pas bonne entre les deux?
Je sais pas pourquoi qu'on en a mis autant. No disqualification, no count out. Je pense que c'était à cause de l'idée d'impliquer le Rock dans le match pour que ça soit plus facile que ce n'est pas une disqualification automatique d'avoir le Rock qui vient se mêler du combat. C'était correct. Je pense qu'avec le Miz, on s'est fié beaucoup sur sa personnalité abrasive qui passe très bien la télé. Il fait petit baveux, qui fait chier, qui se prend pour un autre, puis que
il sait pas c'est qui l'autre.
Ça passe, ça, c'est clair. On s'est fait beaucoup là-dessus. Par contre, on lui a pas donné beaucoup de crédibilité en termes de victoire. Je pense qu'à part John Morrison qui l'a mis over de façon assez constructive et directe et claire, nette et précise, il a pas eu ces matchs-là où ce que de façon décisive, il était le gagnant malgré qu'il était un petit baveux puis un fraîchi, là.
Il s'est quand même assez cogné la tête solidement sur le ciment pendant ce match-là.
Ouais, il s'est blessé à ce match-là. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la montée du Miz. Je trouvais que ça sent... Mais justement, faut donner de la crédibilité. Quand on veut avoir un vilain comme champion, personnellement, il faut lui donner énormément de crédibilité. Parce que ce que tu veux construire avec un vilain comme champion, c'est qui va venir le battre. Puis pour que quelqu'un, tu veux que quelqu'un vienne le battre, ton plus grand babyface, ben il faut que tu veux qu'il batte quelqu'un. Puis il faut qu'il soit dur à battre.
Ben, Bertrand, je vais te poser la question avant d'aller à la pause publicitaire. Je veux que tu me répondes. Comment fait-on pour passer de champion de la WWE, main event à WrestleMania, et passer à membre d'une équipe d'un gérant? Qu'est-ce qui s'est passé avec The Miz?
Oh mon Dieu, ben, il s'est passé plein de choses, je pense. Justement, on a tenté d'aller vers, dans une autre direction que le championnat après le championnat, puis des fois, c'est des chemins tortueux, hein, ça nous amène dans... Et là, soudainement, tu te retrouves un an plus tard dans des positions totalement différentes parce que ça le bon, il y a eu l'histoire avec R-Truth. À partir de ce moment-là, ça a été rapidement, il a comme changé de catégorie. Le buy rate de Survivor Series, mais encore là, on n'a pas donné de crédibilité à R-Truth puis au Miz dans la construction. La façon que c'était présenté là, John Cena était capable de battre le Miz et R-Truth tout seul. Il n'y avait même pas besoin du Rock.
C'est vrai.
Fait que c'est comme...
Mais même WrestleMania 27, The Rock, j'avais détesté de la façon qu'il l'avait utilisé à la toute fin. Mm-hmm. Je trouvais que c'était pas... Comme tu dis, depuis un an, il y a bien des questionnements par rapport à l'utilisation du Rock dans sa rivalité avec Cena à travers tout ça.
Je pense que tu avais le bon point. Hein. Même le lendemain de WrestleMania, déjà, le Rock tente de comme protéger... essaye de dire qu'il respecte John Cena, puis tout de suite le monde eut. Mm-hmm. On veut protéger Cena, on veut essayer de monter Cena au niveau du Rock, mais tout ce que Cena réussit de faire, c'est de descendre le Rock à son niveau.
Bertrand, on pèse sur pause, on va à la dernière pub. Au retour, on parle de WrestleMania de dimanche, on parle de votre livre, également qu'est-ce qui se passe sur notre page Facebook. Vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca, ou bien en différé via podcast.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Les bars érotiques Le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au 100 Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3000 rue Vio à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la voix du sud Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
CJLV 1570 AM est à la recherche de représentants pour le secteur Montréal, Rive-Sud, Laval et Basse-Laurentide. Si le poste de représentant commercial vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à info@1570amplus.laval.com ou par la poste au 2040 Autoroute Laval, Laval, Québec, H7S2M9.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW9, samedi le 5 mai prochain, au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les meilleurs lutteurs québécois, dont le champion TOW, Frankie the Mobster. Également Sylvain Grenier, Drew Onyx, Kevin Steen, Darko, El Generico, Eric Mastrogola, Sexy Eddie, Sanson, Handsome GF et bien d'autres. TOW9, Centre Pierre Charbonneau, le 5 mai prochain. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Hey folks, this is WWE Hall of Famer Hacksaw Jim Duggan, and you're listening to TOW Radio Show. Tough guy.
It's time! It's time! It's beta time! Time!
juste pour faire changement. Donc, il faut faire rapide parce que, étant donné que j'ai deux moulins à parole plus moi, il faut accélérer la chose. Il nous reste à peine 10 minutes. Donc, Bertrand, ce dimanche, WrestleMania, ça se passe à Miami. J'ai dit en débutant l'émission que il y avait 20% de probabilité d'averse pour l'événement, puis en fin du compte, il va faire plus 30.
Ça se passe à Miami et à Ville-LaSalle au Boston Pizza.
Donc, toi, tu vas faire ton apparition là-bas, Bertrand?
Oui, je vais aller vous rejoindre. Je vais être là au Boston Pizza pour voir WrestleMania en direct. Je pense que ça devrait être un bon show, minimalement. Là, je pense que c'est dur que ça soit pas un bon show. Est-ce que ça va être un grand show? Voilà.
C'est comme un souper 7 services.
On
a la salade, la soupe.
Les goûts. C'est sûr que Triple H et Undertaker vont nous offrir une grosse performance avec le Hell in the Cell en plus. Ils ont de quoi pour dépasser le combat de l'an dernier. Puis Rock Cena, ben voilà. La grosse question, qu'est-ce qui va arriver? Chose certaine, je pense qu'on est dû pour les voir s'attapocher. Ça, on est plus que dû même.
Ta prédiction, Bertrand?
Moi, j'ai comme un feeling qu'on s'enligne vers un combat revanche pour l'année prochaine. Donc, faut que le Rock gagne.
OK, intéressant.
John Cena pour ruminer puis être dévasté par cette défaite-là, puis de passer un an à gagner sa rédemption puis son combat revanche pour WrestleMania 20.
Une chose aussi, les gars, c'est que c'est déjà officiel que ça va être la plus grosse gate de l'histoire de la lutte professionnelle. Ça veut dire le plus gros revenu généré avec la vente des billets. Et la grosse question qu'on se demande, c'est est-ce que ça risque d'être le plus grand nombre d'achats à l'international pour les pay-per-view de la WWE? Il faudrait que ça fasse 1,3 million de buys. Alors ça, c'est
ce qui buys.
Va... De buys. Okay. De buys d'achat, B-U-Y-S. C'est ce qui va déterminer, je pense, si ça pourrait être considéré comme le plus grand pay-per-view, buys. Le plus grand WrestleMania. Okay. Buys.
J'ai compris, buys. Pourquoi tu dis pas achat?
Ben, ça me tentait achat. De le dire en anglais.
Toi pis ton anglais.
Ben oui.
Question qui tue les gars, c'est quand la dernière fois que John Cena a un championnat?
Là, ça fait un petit bout de temps, hein. Ça doit être quand tu as battu Rey Mysterio.
Ça fait plus d'un an, hein?
Ben, il a pas battu Rey Mysterio dans après.
Ouais, le tournoi.
Là, pour le titre vacant.
Face à CM Punk, c'est vrai, t'as raison.
Ouais,
c'est bon.
Ça remonte à là, je pense.
Donc voilà pour WrestleMania. Alors continuez à faire vos prédictions via la toile de la page Facebook TOW Radio Show. Pat,
justement, écoute un commentaire que je trouve intéressant, un de nos auditeurs, Bobby Armstrong, qui se demande, bon, Lord Tensai, Prince Albert, qui revient après plus de 10 ans, il trouve que bon, après de ramener un gros jobber boucheur de trous et d'essayer d'en faire un main event, il trouve que c'est n'importe quoi. J'aimerais juste ajouter, Bertrand, je pense tu connais bien celui qui est devenu Giant Bernard au Japon. Lui et Carl Anderson ont même été votés l'équipe de l'année à travers le monde l'an dernier. C'est beaucoup amélioré comme worker et je pense pas que le fait d'avoir des vignettes de lui vont en faire un main event pour autant, mais je pense que les gens...
Il l'apporte pour ça.
Ben écoute, oui. Peut-être, mais en même temps, je pense que les gens vont être surpris du lutteur qui est devenu celui qu'on a connu sous le nom de Prince Albert.
On peut dire qu'il était le lutteur étranger numéro un au Japon depuis plusieurs années.
Effectivement.
Qui est quand même pas un spot facile, même en 2012. Si on regarde la lutte brute, là, quand il est devenu A-Train, déjà, il montrait un petit quelque chose. S'il est encore physiquement capable d'y donner un claque, parce que des fois, après avoir lutté au Japon aussi longtemps, on n'est pas dans le même état physique qu'on voudrait être pour être à 100%, il y a des chances, s'il y a l'opportunité, de peut-être frapper un circuit.
Ça sera jamais un Shawn Michaels, là, au début ça de la tête, mais vous allez peut-être être surpris, surtout ceux qui l'ont connu dans les années 90.
Avec Tess, là, on est dans des années-lumière de ça, là.
Donc, les gars, la semaine dernière, il y a eu une bonne petite question qui a été mise sur la page TOW Radio Show. Quel est le meilleur livre qui a sorti sur la lutte?
Ben, en fait, il n'est pas sorti.
J'aime ta réponse.
T'en viens.
Vas-y, vendez-le. Parce que j'ai lu ton entrevue que tu nous as mis sur la page. J'ai été surpris de ta rencontre avec Dusty Rhodes. Comme quoi que tu l'as trouvé un petit peu hautain.
Dusty Rhodes, définitivement, c'est ça. C'est une vedette, Dusty Rhodes, puis ça paraît quand tu le rencontres. Là. Moi, c'était l'effet qu'il m'a fait. Là, mais au niveau de notre livre, là, pour l'histoire de la lutte... Puis là, nos amis à Toronto ont appelé ça l'histoire de Montréal, là, parce que pour hors Québec, le territoire ici, c'est le territoire de Montréal.
La province de Québec est un concept relativement flou quand on sort du Québec, surtout aux États-Unis.
Au sud, plus qu'on va à l'est ou à l'ouest, plus ça devient compliqué, surtout dans le monde de la lutte. On parle de Montreal Territory, fait que c'est pour ça comme le livre sort en anglais, que ça parle beaucoup de Montréal, mais on parle de tout le Québec puis de tout ce qui a touché la lutte au Québec.
Des années 1800 à aujourd'hui, on fait des biographies exhaustives d'un paquet de lutteurs. On parle des principaux événements qui ont eu lieu, des rivalités qu'il y a eu entre promotions comme les As de la lutte versus Grand Prix. On parle de la lutte des nains, pour ceux qui le savent pas, a commencé ici à Montréal. On en parle beaucoup également. Donc, ça va être vraiment un livre. Ça va avoir 460 pages. Il va avoir au-dessus de...
C'est l'encyclopédie. Hein, c'est
Écoute, ça va être... Il va avoir au-dessus, minimalement 100 photos, mais il devrait y en avoir beaucoup plus, voire le double, sinon le triple de ça. Et puis, il y a aussi le fait que ça va être... Bon, ça va être sorti, comme on l'a mentionné tantôt, février 2013, c'est la date officielle qu'on a eue par ECW Press cette semaine. Ça va marquer, personnellement, le 5e anniversaire du début que j'ai commencé à travailler sur ce livre-là. Bertrand s'est joint à moi l'année suivante, en juillet 2009, mais j'ai officiellement commencé à travailler là-dessus en janvier-février 2008. Donc, je trouve que ça fait un bel anniversaire et effectivement, Bertrand, je pense qu'on a bien hâte que le livre... Je vous dirais que j'ai hâte d'avoir le livre dans mes mains. Je sais pas pour toi, Bertrand, là, mais c'est comme un accouchement. Là. J'ai hâte de l'avoir dans mes bras.
Ça va être spécial. On y a travaillé beaucoup, on y croit beaucoup. Puis, sans vouloir se vanter, on a vu pas mal, on connaît beaucoup de choses, mais à force de recherche puis de parler avec toutes les plus grandes légendes de la lutte au Québec ou des gens qui ont travaillé au Québec, on a appris tellement de choses, on a découvert, débusqué des histoires incroyables qu'on garde pour le livre.
Et je vous dirais qu'avoir encore 2 ans devant nous autres, on pourrait encore faire de la recherche et encore trouver des choses inédites. On a fait plus de 100 entrevues originales uniquement pour ce livre-là.
Pourquoi que ça sort juste en anglais?
Parce que les maisons d'édition au Québec trouvent que la lutte au Québec est morte depuis tellement d'années à un niveau là, au niveau local on parle, et à un niveau mainstream. Ça fait trop longtemps et eux autres pensent que la lutte, un livre sur l'histoire de la lutte, eux autres voient pas le 5 de dollar en bout de ligne. Ils voient pas comment est-ce qu'ils pourraient faire du profit.
Il y a même pas eu une maison d'édition qui a pensé un petit peu.
Il y en a eu plusieurs, mais...
Parce qu'on pourrait inviter les gens à écrire...
Il y en a eu plusieurs. Écoute, je vais te donner peut-être un petit scoop ici, Patrice. Notre version francophone va sortir en version électronique. Ça, c'est officiel ici, W Press va nous permettre de faire ça. Par contre, ce qu'ils essayent de faire aussi, c'est qu'en janvier, ils ont eu un publiciste qui est venu ici au Québec et qui a parlé à différentes maisons d'édition. Il y en a certaines qui ont déjà passé, il y en a d'autres qui n'ont pas encore donné leur réponse. Donc, il y a quand même un pourcentage de chances...
Ils peuvent changer d'idée.
...que ça pourrait marcher. Cependant, dites-vous qu'au moins, il y a une version électronique qui va être disponible. Électronique qui va être encore plus grosse, la version anglophone, parce qu'évidemment, vu que c'est électronique, on peut se permettre d'en écrire plus.
Bertrand, en terminant?
Ben, c'est ça. Écoutez, on y a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de recherches, puis... Il y a tellement de choses là-dedans que même moi, je nous relis puis je dis, c'est intéressant, ou c'est vrai, je me souvenais plus de plein de petites choses, puis moi, je suis juste un maniaque des détails, et donc on s'est arrangé pour en trouver beaucoup, puis des choses inédites. On y était souvent pour, ben, si on a le choix de choisir de parler d'un sujet d'une façon qui a été traitée 100 fois puis qui a jamais été traitée, on y va toujours vers la direction que le sujet n'a jamais été traité.
Et dites-vous que même si c'est en anglais, on va en entendre parler au Québec puis dans les médias francophones. Comptez sur nous.
C'est clair.
Bertrand, est-ce que tu étais à la signature d'autographe de Jacques Rougeau?
Non.
Parce que tu l'as mis sur ton...
Je joue fair.
Donc, si vous cherchez du bois de chauffage ou du papier d'allumage, Du papier glacé, c'est toujours bon.
Ah, il est beau son livre. Il est super beau son livre.
Il paraît très bien sur une table à café.
Oui.
C'est ça que j'allais dire. Du papier glacé, ça s'allume bien.
Il est comme John Cena. Il paraît très bien, mais c'est après ça, des fois, que ça se gâte.
Bertrand, je te remercie beaucoup d'avoir été là. On se voit dimanche au Boston Pizza. Faut être là à 6h.
Ouais, on va être là pour 6h. Merci.
Merci, Bertrand.
Merci, Bert.
Merci beaucoup pour tes chroniques WrestleMania. C'était très intéressant.
Excellent.
Bye.
Merci, bye-bye.
Merci beaucoup, Pat.
Patrice, merci à toi.
On se voit dimanche.
On se voit mardi prochain.
Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on vous attend au Boston Pizza de Ville-la-Salle dimanche pour la présentation de WrestleMania 28 pour voir l'impensable The Rock face à John Cena, mais également...
Pour nous voir, nous autres aussi, Patrice.
Ben oui, voir que j'ai pas juste une face à faire de la radio. Sur ça, bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se revoit la semaine prochaine pour la 25e édition du TOW Radio Show. C'était Patrice Maltais. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, de matinée, tout dépendamment comment vous écoutez l'émission. Sûrement en podcast, parce que là, j'arrête pas de parler. Sur ce, ciao.